10h, 11h30.
Tendance première.
On vous parle aujourd'hui du projet Belbis, la situation des populations d'abeilles sauvages, pardon, qui n'avait pas été étudiée en Belgique depuis 25 ans. Eh bien, les choses changent grâce à ce projet. Et pour en parler, nous recevons Maxime Drossard, bonjour.
Bonjour.
Et Denis Michet, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission. Vous êtes tous les deux à l'Université de Mons dans la partie zoologie, évidemment. Vous faites partie de ce projet Belbis. Il y avait vraiment une urgence à pallier à ce manque d'informations. Et on voit même maintenant, on a encore des inconnus et des choses qu'il faut absolument creuser parce qu'on manque encore de documentation. Mais c'est donc important aujourd'hui de faire ce projet.
Tout à fait. Donc c'était une urgence, comme vous le dites. Il y a plus de 25 ans, donc on avait fait une première évaluation qui était déjà qui mettait en évidence un constat assez alarmant. Et comme vous le dites aussi, on avait aussi besoin d'améliorer les connaissances. Sur le territoire, on a encore besoin d'ailleurs d'améliorer les connaissances, mais justement, le besoin de cette liste rouge était vraiment nécessaire pour prioriser certaines actions de conservation.
Alors, on va faire la différence tout de suite entre ce que sont les abeilles sauvages et l'abeille domestique dont on a l'habitude de parler en général. Cette abeille productrice de miel, dont on connaît aussi une forme de déclin avec des populations qui disparaissent de manière dramatique dans certaines régions. Mais ici, c'est bien l'abeille sauvage. Alors, c'est quoi une abeille sauvage? Une abeille qui n'est pas domestiquée, en fait.
Alors, donc, toutes les abeilles font partie d'une même famille, si vous voulez.
Ouais.
Et puis, dans cette famille des abeilles, vous avez une espèce qui est domestiquée par l'homme ici en Europe, qui est Apis mellifera, dont les apiculteurs s'occupent, qui vit dans les ruches, qui produit du miel, qui produit de la cire. Mmh. Et à côté de cette espèce qui est domestiquée, vous avez des espèces sauvages. Donc c'est exactement comme les oiseaux, vous avez les poules qui ont été domestiquées par l'homme et puis d'autres oiseaux qui sont restés sauvages.
Et ces abeilles sauvages, chez nous en Belgique, alors c'est à peu près 380 espèces différentes qui ont été recensées jusqu'à maintenant.
Alors voilà, donc il y a en Belgique 400 espèces ont été recensées à l'échelle belge et 381 ont été évaluées parce que les 22 autres, on ne peut pas attester d'une population qui est viable, donc on n'a pas pris ces espèces en compte. On a parfois une seule observation sur le territoire, donc on ne peut pas du tout établir la présence physique ou non de ces espèces.
Alors cette diversité d'abeilles sauvages, elle est quand même relativement bien méconnue du public, hein, parce que moi je ne fais pas vraiment la différence entre une abeille mellifère domestique et une abeille sauvage quand j'en vois dans mon jardin, et je suis sûre que je vois des abeilles et je ne reconnaîtrais même pas que c'est des abeilles, parce qu'elles ne se ressemblent pas toutes, elles n'ont pas toutes les mêmes caractéristiques, et comme on le disait dans le reportage d'Arte, qui est un reportage d'ailleurs que je vous conseille d'aller voir, il est disponible gratuitement sur YouTube pour le moment, donc profitez-en, mais pendant une heure vous allez découvrir que des abeilles, effectivement, il y en a d'espèces totalement différentes qui vivent de manière aussi totalement différente. Donc c'est quand même assez... c'est une richesse, cette diversité aujourd'hui.
Tout à fait, on a une diversité d'écologie qui est assez incroyable. Et c'est l'une des importances, en tout cas, de ce cortège d'espèces, c'est une importance patrimoniale.
Ouais.
Donc, ces 400 espèces rivalisent d'une diversité de formes, de couleurs, d'écologie qui sont bien, bien distinctes. On a des modes de nidification différentes, des diètes différentes. On aura aussi des préférences envers certaines plantes à fleurs. Et donc, c'est ça, justement, qui est extrêmement important. Favoriser une diversité d'abeilles va pouvoir favoriser la diversité de plantes à fleurs associées.
Parce que l'élément quand même principal, c'est qu'elles sont toutes, ou quasi toutes, il y a des opportunistes, mais elles sont quasi toutes pollinisatrices, ces abeilles, qu'elles soient sauvages ou domestiques, et donc elles sont un maillon essentiel aujourd'hui de la vie, tout simplement, sur Terre.
Donc en fait, elles sont toutes pollinisatrices. Donc c'est le point commun de toutes les abeilles.
Il y avait pas, j'avais lu qu'il y avait une opportuniste, par exemple, une race opportuniste.
Alors il y a des espèces qui sont opportunistes dans le sens où elles vont collecter beaucoup de pollen de types différents, et puis d'autres espèces qui sont plus spécialisées sur certaines plantes. Mais elles sont toutes en Belgique et toutes en Europe, végétariennes en fait.
C'est ça.
Elles mangent que du pollen et du nectar.
Contrairement aux guêpes qui sont carnivores.
Voilà, donc les ancêtres des abeilles, ce sont les guêpes. Mmh. Et puis ce sont des guêpes qui ont transformé un régime carnivore en un régime végétarien.
Alors, on ne va pas revenir sur... on ne va pas faire de lien avec les régimes humains. Hein. On va éviter aujourd'hui. En ce qui concerne ces abeilles et l'étude de ces abeilles, ben, je l'ai dit, la situation n'est pas forcément très bonne dans ce que vous avez pu observer, puisque un peu plus d'un tiers, 32,8% pour être exact, des abeilles qui ont été étudiées. Donc on parle bien des 380 ici, sont déjà ou menacés, voire même en situation extrêmement critique.
Alors voilà, donc il y a plus d'un tiers des espèces qui sont menacées, et en plus, on ajoute 11% qui sont déjà éteintes. Donc c'est là, donc c'est assez, assez frappant, parce que quand on compare à certains autres groupes comme les mammifères ou les oiseaux, on a une proportion similaire d'espèces menacées, qui est déjà tout à fait significative,
oui.
Mais on a une proportion d'espèces éteintes qui est beaucoup plus grande que pour ces autres groupes. Et donc quand on, quand on prend en compte ces espèces menacées, éteintes ou qui sont en passe d'être menacées, on obtient plus de la moitié des espèces.
C'est énorme.
C'est énorme, oui.
C'est dramatique, vraiment, ou... enfin, je veux dire, on a des points de comparaison par rapport aux années précédentes. Est-ce que ce déclin, il est venu rapidement, ou est-ce que c'est un déclin qui est presque naturel? On sait voir ce genre de choses?
Alors, c'est dramatique dans le sens où on peut comparer à d'autres, d'autres périodes, ouais, et d'autres zones dans le monde. Et la Belgique, c'est tout simplement une des pires. Donc, il y a des,
ah oui,
y a des études dans d'autres pays européens, aux États-Unis... et le pourcentage d'espèces éteintes en Belgique est un des plus élevés, jamais enregistré.
Ah oui, c'est quand même... C'est pas une bonne...
Oui, on n'est pas les champions à ce niveau-là.
Voilà, 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 voilà. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi, évidemment, et essayer de parler de tout ça. Alors, vous avez... On peut déjà, évidemment, pointer les changements climatiques, les changements de structure des paysages ruraux, le processus de production alimentaire, l'usage de pesticides, le développement de maladies, et on va revenir sur tous ces éléments-là. Mais les abeilles sauvages sont aussi des petits êtres fragiles, et je vous propose un autre extrait de ce reportage d'Arte.
Tendance première.
La spécialisation contraint parfois les abeilles sauvages à des adaptations particulières. L'abeille à culotte a une passion exclusive pour le pollen de la chicorée sauvage qui ne fleurit que le matin. L'hyménoptère doit donc se dépêcher. Chaque jour, elle aménage une cellule de son nid. Elle dispose de 4 heures pour récolter le nectar nécessaire à la larve de cette cellule. Car dès midi, les fleurs de la chicorée sauvage seront fanées. Pour exploiter au mieux ce court laps de temps, l'abeille à culotte possède d'énormes brosses sur ses pattes arrière. Elle peut ainsi recueillir beaucoup de pollen à la fois et n'a pas besoin d'interrompre sans cesse le butinage pour transporter le pollen jusqu'au nid. À midi, elle rentre au nid pour la dernière fois avec une lourde charge. Elle a ensuite tout l'après-midi pour s'occuper de l'aménagement intérieur de sa galerie.
La photo là, c'est une abeille mellifère.
C'est une abeille mellifère. Ah, mais c'est une photo qu'on a trouvée sur votre site. Il va falloir peut-être corriger les choses.
Les belles bises.
Les belles bises. Donc on va reparler de cette abeille mellifère. Je voudrais qu'on revienne à cette abeille à culotte. Est-ce qu'elle existe chez nous?
L'abeille à culotte?
Oui.
Oui, tout à fait. Oui, oui.
Elle a d'énormes... J'explique pour les gens qui ne l'ont pas à l'image. Les deux pattes arrière sont en fait énormes, effectivement, hérissées de plein de poils pour ramasser le plus de pollen, oui, possible. Si je voulais qu'on parle de ça, c'est parce qu'elle a, elle a quand même cette spécificité de se nourrir pendant un très court laps de temps dans la journée, mais aussi sur la période, puisque ces fleurs ne sont pas présentes sur une longue période. Et donc, ça en fait une spécificité qui la fragilise. Est-ce qu'on a des abeilles comme ça chez nous aussi qui sont fragilisées de par ses spécificités? Plus on a une spécialisation chez l'abeille, plus on sait qu'elle peut être facilement menacée.
Oui, donc en fait, donc Maxime en parlait, les abeilles ont une variété dans l'écologie, dans l'indification, et puis certains traits écologiques fragilisent certaines espèces. Et typiquement, la spécialisation sur certaines plantes fragilise ces espèces-là, parce que quand la plante disparaît, elles ne peuvent pas se tourner vers d'autres plantes qui pourraient être dans l'habitat, mais simplement, elles disparaissent. Et donc, l'abeille à culotte, c'est un des exemples qui est spécialisé sur les pissenlits ou les chicorées. Mais bon, cette espèce-là se porte encore relativement bien, parce qu'on retrouve encore relativement
des terrains,
cette plante favorite. Mais il y a d'autres espèces qui sont spécialisées sur les campanules, par exemple, sur des bruyères. Et là, à ce moment-là, comme leur habitat disparaît, les espèces d'abeilles disparaissent en même temps.
Des habitats qui sont fragilisés parce qu'effectivement, ils disparaissent. Or, on le voit, certaines de ces abeilles ont besoin d'habitats tellement particuliers qu'il faut absolument les sauvegarder. Ce n'est pas le cas de tous, mais quoi qu'il en soit, le fait d'avoir des villes qui s'agrandissent encore aujourd'hui, une urbanisation galopante ces dernières années, une fragmentation des terrains pour les terres agricoles et un manque de diversité dans l'agriculture chez nous aussi, les changements climatiques, on en a en a parlé, mais c'est surtout et avant tout les actions que l'homme a faites sur le dessin de son territoire et la manière dont il a envisagé ce territoire en oubliant complètement, évidemment, cette biodiversité. On va revenir sur des choses que l'on peut faire aussi hein, dans cette émission, des petits gestes que l'on peut faire et reprendre vos témoignages d'ailleurs à ce sujet au 02 737 26 06, 02 737 26 06. Si vous faites des petites choses chez vous pour essayer de préserver les populations d'abeilles sauvages, eh bien n'hésitez pas à nous en parler par SMS également au 60 31 75 centimes le message, ou même à poser vos questions puisque nos spécialistes sont là aussi pour nous éclairer. On se retrouve juste après une page de pub.
10h, 11h30.
Véronique Thiberguien sur la première.
On revient évidemment pour parler des abeilles sauvages avec nos invités et ce projet Belle Bise. Maxime Drossard et Denis Miché sont avec nous pour nous en parler. Vous êtes nombreux, hein. Il y a plusieurs universités qui travaillent sur ce projet qui est à la fois un projet de recensement, d'études très concrètes, des causes aussi qui mettent en péril ces populations pour essayer de dégager des solutions et proposer des aménagements s'il le fallait. Avec cette étude d'abeilles dont on sait évidemment que les populations d'abeilles sauvages chez nous sont déjà largement menacées. Et puis, il y a ces groupes d'espèces qui ont des écologies particulières, on en parlait, mais il y a un exemple que vous citez qui est quand même assez, assez frappant dans l'étude, c'est celui des bourdons, pour lesquels 80% des espèces sont déjà menacées d'extinction et d'ores et déjà éteintes ou en passe d'être menacées. 80% des bourdons sont donc en péril total.
Tout à fait, c'est ça. Le groupe des bourdons, c'est le groupe le plus connu des abeilles parce qu'on a différents experts qui ont fait qu'on a vraiment une belle tradition naturaliste pour ce groupe. Sur les 30 espèces qu'on a recensées à l'échelle belge, on a 5-6 espèces qui se trouvent être en bonne santé. Le reste, c'est menacé ou voire éteint.
Le bourdon, c'est la même chose que l'abeille. Il fait le même travail et tout.
Alors, on a 30 espèces de bourdons, oui. Et c'est une espèce d'abeille. Ce sont des espèces d'abeilles, en fait. Ils font partie du groupe des abeilles, au même titre que l'abeille mellifère.
D'accord. Mais on peut considérer que c'est une abeille sauvage aussi, donc.
Tout à fait.
Oui. Alors, on va évidemment parler de ces fameuses causes. Des causes qui paraissent évidentes aujourd'hui, au vu et au regard de ce que l'on sait du changement climatique et des causes du changement climatique, mais ce sont des causes humaines liées aussi à l'aménagement du territoire.
Clairement. Donc le déclin des abeilles est forcément en parallèle au déclin du reste de la biodiversité dont on parle énormément. Heureusement, maintenant, on commence enfin à en parler, qui est simplement lié à notre mode de développement. Mmh. Notre mode de développement qui met en péril la nature, la biodiversité. Et donc, on consomme plus de ressources que ce qui n'est disponible. Et donc, les abeilles sont au premier rang des victimes de ce mode de développement.
Alors, je lisais aussi en préparant cette émission que on commence à se poser des questions sur l'installation des ruches en ville, par exemple, puisque ce sont des ruches qui sont essentiellement composées, non, totalement d'ailleurs, composées d'abeilles mellifères, d'abeilles domestiques, et que celles-ci commencent à faire sérieusement concurrence justement aux abeilles sauvages qui existent en ville, parce qu'il y en a qui existent en ville, et par exemple à Bruxelles, c'est entre 190 et 200 espèces différentes d'abeilles sauvages, je pense, qui ont été recensées dernièrement. Alors pour le moment, c'est quelque chose, c'est un sujet très touchy, hein. Visiblement, ça fait pas mal de débat. Moi, je peux, sans être spécialiste, effectivement, imaginer qu'il y ait une forte concurrence dans des endroits où l'alimentation est quand même limitée pour ces petites bêtes.
Clairement, donc il faut avoir une gestion apicole raisonnée aussi. Et on ne peut pas mettre des dizaines, des centaines de ruches dans des endroits où il n'y a pas assez de nourriture. Et c'est même mauvais pour l'abeille mellifère elle-même. Oui. Ça les affaiblit elle-même. Donc on commence à s'en rendre compte aussi. En fait, il y a beaucoup de personnes qui, croyant bien faire...
Ça a été une promotion qu'on a fait pendant 3 ans. Enfin, je veux dire, mais nous, dans notre émission, on en a parlé. Donc...
Mais en fait, quand on y réfléchit de plus près, quand vous avez une espèce qui décline, le bon moyen pour... la bonne solution, c'est de limiter ces facteurs de stress, c'est pas de rajouter des ruches. Donc c'est comme si vous aviez un champ avec des vaches qui sont en train de mourir et la solution que vous proposez, c'est de mettre plus de vaches dans votre champ.
Oui, alors qu'elles meurent parce qu'il y a pas assez d'herbe, voilà. Par exemple. Oui, c'est ça.
Donc avec un peu de recul, ça paraît un peu idiot cette solution de oui. Parce qu'il y a du déclin, on rajoute des ruches, mais bon voilà, la première solution, c'est de rendre leur habitat de meilleure qualité.
C'est ça. Ça sera intéressant d'y réfléchir quand même dans les villes, et c'est ce qu'on fait à Liège notamment, et peut-être à Bruxelles, je l'espère, parce que dans certaines villes françaises, on a déjà interdit l'installation de ruches d'abeilles domestiques pour cette raison-là. Donc avant d'en arriver à une interdiction, essayons de dialoguer et de trouver quelque chose de raisonné, oui.
C'est ça. Je pense qu'il ne faut certainement pas opposer les naturalistes aux apiculteurs. Les apiculteurs ont évidemment comme objectif que leurs ruches se portent bien et que leurs abeilles mellifères chéries se portent bien. Et donc, moi, je ne veux certainement pas opposer naturalistes et abeilles mellifères. L'abeille mellifère a certainement un rôle à jouer en pollinisation, en éducation à la nature, reconnecter les gens à la nature. Mais il faut le faire de manière raisonnée et que ce ne soit pas aux dépens des abeilles sauvages. Mais je pense qu'il faut vraiment... On a d'énormes synergies, beaucoup plus de points communs avec les apiculteurs pour travailler ensemble que de différences.
Et clairement. Donc, si, à notre niveau, ou au niveau mondial, en tout cas, nous pouvons difficilement agir sur ce qui concerne les pesticides ou l'aménagement du territoire, nous ne pouvons pas aller interdire un agriculteur, évidemment, de s'installer, ce qui serait totalement idiot, parce que là aussi, il y a des choses à mettre dans la balance des deux côtés. Il y a quand même des choses que l'on peut faire très simple, chez soi. Et je vous propose une idée qui nous vient de Suisse, cette fois. Un reportage produit par la Tribune de Genève dans le cadre de l'Impact Journalisme D. Et on vous propose le travail d'une start-up zurichoise, Wild Bean et Partner, qui propose un geste simple et accessible à tous pour contribuer à la survie des abeilles. C'est tout simplement l'installation d'un nichoir Amazon sur les balcons ou dans les jardins. Et vous allez comprendre pourquoi.
Alors, le projet du parrainage d'abeilles sauvages a été lancé par les fondateurs de Wild Bean et Partner. Toutes les personnes privées, si elles le souhaitent, peuvent installer une petite maisonnette bee home chez eux, qu'on peut installer sur son balcon ou bien dans son jardin. Et puis on reçoit avec la maisonnette une population de départ de 25 cocons d'abeilles maçonnes qui sont encore en hibernation. Ces abeilles vont se multiplier en fait dans la maisonnette, donc dans les tubes de nidification. Et puis, les parrains peuvent nous renvoyer, en fait, cette partie de la maisonnette, la boîte intérieure, pour que nous nous déparasitions les nouveaux cocons qui sont créés, que nous les gardions en hibernation, pour ensuite les mettre à disposition d'agriculteurs pour la pollinisation de leurs vergers le printemps suivant. L'an dernier, en automne, il y a environ 20 000 personnes qui nous ont renvoyé la partie intérieure de leur maisonnette, donc qui sont des parrains actifs. On avait en moyenne 80 nouveaux cocons par maisonnette.
Un projet avec lequel que vous connaissiez tous les deux.
Oui, oui, on travaille avec eux dans le cadre d'un projet sur les pesticides, oui. Et ils nous aident pour tester les pesticides sur ces abeilles sauvages.
Alors évidemment, moi qui suis pas du tout spécialiste et une personne lambda, je me dis, mais c'est génial, on demande aux gens de produire des cocons quelque part, parce que in fine, c'est ça, c'est de pouvoir récolter des cocons, les faire hiberner et pouvoir ensuite les faire éclore et produire ces abeilles. Est-ce que c'est une bonne manière de faire plutôt que, ou alors en accompagnement d'installations de tels insectes et des choses comme ça.
Je pense qu'encore une fois, c'est bien pour l'éducation,
oui.
C'est bien pour la population, ici c'est une osmie en l'occurrence, mais si vous n'ajoutez pas ça à ça, par exemple ne pas utiliser de pesticides dans votre jardin, manger bio ou essayer d'améliorer l'environnement, encore une fois, ça suffit pas. Mais c'est un bon élément, je pense que c'est un très bel outil de communication, par exemple, très bel outil éducatif, et aussi c'est intéressant pour l'osmie elle-même. Mais c'est pas suffisant.
C'est pas suffisant, voilà. Ça ne peut pas être utilisé seul en se disant on va sauver les populations d'abeilles sauvages. Anne de Mont-sur-Marchienne nous dit « Je me rends compte que depuis que j'ai installé l'hôtel à insectes, j'ai pas mal d'abeilles sauvages, mais je ne sais pas quelles fleurs je dois mettre pour les attirer. Jacques de Soumaing, j'ai la chance d'avoir un grand jardin avec un ruisseau au fond depuis 4 ou 5 ans, je ne tombe plus entièrement ma pelouse, je laisse des îlots ou je laisse des herbes pousser jusqu'à 40 cm. En quelques années, j'ai retrouvé une bonne dizaine de fleurs sauvages dans ma pelouse. Ça m'a permis de revoir beaucoup de variétés d'oiseaux et d'abeilles pour lesquelles j'ai installé des hôtels à insectes. Je sais que mon jardin n'est pas aussi beau que ceux de mes voisins, tondus à ras, mais je trouve que c'est un vrai régal de voir toutes ces fleurs et de savoir que mon jardin est fort fréquenté. Une auditrice de Senef, je fais beaucoup de choses dans mon jardin. J'installe des fleurs indigènes, je n'utilise pas de pesticides, j'ai posé des abris pour les insectes, j'ai fait un jardin très naturel. Par contre, autour de moi, c'est l'hécatombe, ça me met très en colère car on fait soi-même de petits gestes et tout autour de vous, tout est saboté. J'ai des voisins qui, il y a quelques années, se vendaient de mettre du Roundup stand-up pur pour faire des bordures. On demande aux particuliers de faire beaucoup de gestes, mais c'est toujours la même logique, la pensée du siècle passé qui prédomine, nous dit cette auditrice. Plein de gens, visiblement, font des petits gestes et des choses comme ça. Est-ce que ça peut vraiment jouer un rôle? C'est toujours la question qu'on se pose. Est-ce que se pose cette auditrice, si moi je fais et que mes voisins ne font pas, est-ce que ça sert à quelque chose?
Ça sert tout à fait à quelque chose parce que les jardins et habitations en Wallonie représentent 6% du territoire. Et à Bruxelles, c'est même 30%. Forcément, ça augmente. Et donc, c'est une surface qui peut potentiellement être valorisée pour la biodiversité. Et donc là, vous avez de très bons élèves, notamment, qui favorisent justement la biodiversité au travers de leur jardin. On a vraiment des initiatives qui sont faciles à prendre, comme renoncer aux pesticides, comme vous venez de le dire, et associer le gîte, donc les habitats, les sites de nidification avec le couvert, donc les ressources florales pour les pollinisateurs.
Les hôtels à insectes, tout ça, c'est aussi une bonne méthode.
Voilà, donc c'est un bon outil qui va permettre vraiment la sensibilisation et qui va permettre en fait d'observer d'un peu plus près ces abeilles. Maintenant, c'est un seul type de nidification.
C'est ça. Ouais, ouais.
Donc pour le bien, il faut allier justement différents types de nidification. Et parfois, en fait, il ne faut pas faire grand-chose parce que la majorité des abeilles vont nidifier dans le sol.
Oui.
Et donc, le plus simple, c'est de ne rien faire, de laisser une plage de sol nu ou un talus qui est ensoleillé. Et les abeilles vont tout à fait apprécier cela.
Tout type de sol?
Alors,
on privilégie
chaque abeille a son type de sol. Je dirais c'est ça la complexité de la biodiversité. C'est qu'il n'y a pas une solution unique. Et donc, il y a une multitude de solutions.
Ouais.
Et donc, il y a des abeilles qui aiment bien les sols sableux, d'autres des sols argileux. Voilà.
C'est ça, mais je veux dire, moi qui ai jardin avec de la terre...
Tous les jardins sont les bienvenus.
Ça procure aussi, ouais.
J'aimerais bien aussi rappeler juste le concept, alors je ne suis pas biblique, mais le concept d'Arche de Noé.
Ouais.
Donc chaque petit jardin peut être une île où vous allez préserver la biodiversité. Alors même si tout autour, ça vous paraît le désespoir, dites-vous que si vous arrivez à préserver au moins cette biodiversité dans votre jardin, c'est déjà un plus. Et puis de là... Quand d'autres personnes seront convaincues, elles vont pouvoir recoloniser d'autres jardins. Mais c'est vraiment important que tout le monde y aille.
On a des guides nature aussi qui nous ont contactés pour nous expliquer effectivement que de plus en plus ils introduisent ce type d'explication au sein de leur balade pour montrer notamment la diversité des habitats. Diversité qu'on ne connaît pas non plus dans le grand public. Qui peut dire aujourd'hui chez les enfants qu'une abeille, ça peut aussi vivre dans le sol, creuser des tunnels, que ça ne vit pas forcément en colonie non plus, qu'il y en a qui vivent tout à fait de manière solitaire, des femelles qui resteront solitaires toute leur vie. Et donc, voilà, il y a des choses très diverses à connaître et que l'image d'épinal que l'on fait circuler chez nos enfants, qui est quand même celle de la jolie ruche avec le pot de miel à côté, c'est pas l'image unique de l'abeille aujourd'hui. Et qu'il faut peut-être l'enrichir et l'étoffer pour commencer une forme d'éducation aussi à la préservation de la nature.
C'est ce qu'on essaie de faire, en fait, avec le laboratoire de zoologie. On essaie de sortir un peu de cette image du scientifique dans sa tour d'ivoire qui étudie les aspects très fondamentaux. Et par des projets dans lesquels Maxime travaille, comme Sapol et Belbis, on essaie aussi de se tourner vers les gens. C'est pour ça qu'on vient en parler ici aussi. Et donc, on essaie d'éduquer, en tant que scientifique, à la diversité du monde. Juste un point de comparaison, les abeilles, c'est 20 000 espèces dans le monde. Les mammifères, c'est 5 000 espèces. Donc il y a 4 fois plus d'espèces d'abeilles que de mammifères en fait. Alors que les mammifères, bon voilà, on connaît un chat, un lion, blablabla. Et les abeilles, on n'a aucune idée. Et donc c'est aussi à nous en tant que scientifiques de faire passer le message et de créer des outils aussi. Donc on a fait des expositions, tout public. On a fait aussi des publications. On essaie d'éduquer les gens là-dessus.
On va continuer cette éducation évidemment.
10h, 11h30.
Tendance première.
Véronique Thiberguien.
S'il faut convaincre les plus grands économistes de ce monde de préserver ces petits êtres que sont les abeilles, que trouver comme argument, pourquoi pas celui-ci?
S'il faut aujourd'hui protéger nos abeilles sauvages, ce n'est pas seulement pour elles-mêmes. Elles ont pour nous un immense intérêt économique. Des chercheurs ont récemment chiffré la valeur monétaire du travail fourni par les insectes pollinisateurs en Europe. Elle s'élève à 14 milliards d'euros par an. Une grande part de cette somme est à mettre au compte des abeilles sauvages.
14 milliards d'euros par an. C'est ce que rapportent les abeilles, ou ce qu'elles coûteraient si elles disparaîtraient. C'est une valeur monétaire. Vous pensez que ça peut parler à des hautes sphères qui devraient prendre des décisions? Parce que ça, c'est comme ça qu'il faut leur parler aussi.
tout à fait. La valeur économique est un argument qui est assez, assez fort pour, et qui peut influencer justement les politiques. Et c'est ce service de pollinisation justement que l'on met en avant pour les abeilles, mais aussi pour les pollinisateurs en général, puisque les abeilles ne sont pas seules à effectuer ce travail. Et qui, vous venez de le dire, sans ces pollinisateurs, ce travail devrait être effectué par quelqu'un d'autre, avec une efficacité qui est beaucoup moindre, et donc un impact vraiment négatif sur notre alimentation et donc sur notre santé.
Je voyais un reportage où on parlait de pollinisateurs robotisés, par exemple, ou des choses comme ça, mais c'est, pour le moment, c'est tout à fait inimaginable et utopique. Enfin,
c'est même stupide. Oui. Je veux dire, imaginez, c'est vraiment des idées d'ingénieurs qui connaissent rien.
Ne te fâchez pas avec les ingénieurs.
Je suis ingénieur, donc je peux le dire.
Ah, mais c'est vrai.
Mais des ingénieurs où il y a un problème et ils remplacent un problème par un autre problème. C'est évidemment insoutenable.
Je vais le dire avant de l'oublier, c'est le documentaire dont on vous parle, ça s'appelle tout simplement Les abeilles sauvages, et c'est un documentaire de Jean Hart qui est considéré comme le meilleur réalisateur animalier en Allemagne et en Europe d'ailleurs, et c'est vrai que les images qu'il a pu tirer de ce petit monde absolument incroyable sont vraiment très très jolies, donc n'hésitez pas à aller voir ce documentaire sur n'importe quelle plateforme. Pierre Darchy nous dit: je suis agriculteur, il y a des mesures agro-environnementales qui sont mises en place. Ce sont des bandes fleuries au bord des champs céréaliers. Ça sert dans un premier temps pour la pollinisation et ensuite, ça sert à nourrir les oiseaux. Ça fait partie des mesures financées par la PAC. Si les agriculteurs s'engagent, ils reçoivent même un soutien financier. Il y a des activités comme ça et des promotions qui sont faites auprès des agriculteurs du monde de l'agriculture pour effectivement essayer de réintroduire quand même certaines choses. Alors, pas forcément obligé d'attendre évidemment que des décisions européennes se prennent pour laisser des parties de champs en jachère ou des choses comme ça.
Oui, donc il y a déjà des mesures qui existent. Elles ont été évaluées, en partie, en tout cas, on a encore des zones d'ombre. Mais donc ces mesures comme les bandes fleuries, effectivement, peuvent être positives dans certains contextes paysagers pour des espèces qui sont très généralistes, encore une fois. Ah. Donc des espèces qui peuvent être, qui peuvent être opportunistes et se tourner vers ces nouvelles ressources de nourriture. Elles vont en bénéficier, elles vont pouvoir polliniser les champs, donc ça va dans un certain sens, dans un bon sens. Mais imaginez une bande fleurie, encore une fois, si à côté vous mettez plein de pesticides, il n'y a pas de cohérence. Mmh. Donc je pense que la solution vers laquelle on doit aller, c'est l'agriculture biologique.
De toute façon, plus de pesticides dans un premier temps, limiter parfois l'intensification agricole irréfléchie, on va dire, pouvoir aussi réaménager le territoire convenablement, préserver ses zones, analyser le changement climatique, parce qu'on ne sait pas aujourd'hui quelle est la part finalement de chaque élément dans la disparition de ces abeilles sauvages, en fonction par exemple des espèces ou de leurs spécificités.
Voilà, donc les causes vont impacter parfois en synergie. Oui. Ça, c'est assez compliqué à évaluer selon le contexte environnemental. Et elles vont toucher de plein fouet certains groupes d'espèces, comme les abeilles sociales, donc comme les bourdons, ou certaines abeilles à écologie un peu particulière, comme les abeilles qui nidifient dans le sol. Et donc, c'est ça toute la difficulté. En fonction de la région, on aura vraiment différents impacts et différentes causes qui vont vraiment agir ensemble, comme les changements paysagers qui vont interagir avec les changements climatiques pour certaines espèces.
Je lisais aussi dans le rapport que vous avez des données insuffisantes dans certaines régions. Dues à quoi ?
Alors, la Belgique bénéficie d'une tradition naturaliste assez exemplaire en Europe. Donc, on a vraiment une très bonne connaissance. Seulement, certaines zones donc, sont sous-échantillonnées en raison de... en fait, c'est parfois simple. Les laboratoires, donc par exemple le laboratoire de zoologie, a prospecté partout autour de Mons. Donc on a une assez bonne connaissance autour de Mons, soit Jean Blou, où là il y a aussi un laboratoire qui est spécialisé là-dedans. Et donc on voit qu'on a des très bonnes connaissances sur des hotspots. On a aussi des bonnes connaissances dans des lieux qui sont connus pour héberger une belle diversité. Donc les naturalistes vont plus souvent là. Et on a des zones qui sont totalement sous-échantillonnées parce qu'elles sont délaissées totalement. Alors qu'on sait que ces zones peuvent être riches.
C'est ça. Et je le disais, les disparitions ne sont pas forcément inéluctables parce que si certaines espèces ont disparu chez nous en Belgique, elles ne le sont peut-être pas dans d'autres pays européens. Mais il faudrait pouvoir favoriser ce qu'on appelle des couloirs écologique pour pouvoir, et puis évidemment, réaménager le territoire ou en tout cas leur permettre d'avoir des zones et des écosystèmes vivables et viables chez nous, mais des couloirs écologiques pour faire revenir des populations d'abeilles sauvages qui auraient peut-être disparu.
Mais c'est ça, il faut avoir une bonne vision spatiale en fait de ces problèmes de déclin. Donc on peut avoir des zones qui sont complètement sans espèces, et d'autres zones, même en Belgique, qui ont encore une certaine richesse spécifique intéressante. Et de là, ces espèces peuvent recoloniser des nouveaux habitats qui auraient été restaurés. Mmh. Donc c'est à l'échelle belge. On voit par exemple la Gaume est encore relativement riche. Certaines espèces ne sont plus présentes que pour là. La région de Rochefort aussi, très très riche. La Campine. Mais globalement, la Belgique, je vous l'ai dit, a beaucoup d'espèces qui ont disparu, mais ces espèces, aucune n'est disparue à l'échelle continentale.
C'est ça.
Donc pour l'instant, on n'en est pas au point de non-retour, heureusement. Mm-hmm. Donc il y a encore de ces espèces disparues en Belgique, il y a encore des populations ailleurs en Europe. Et donc si on imagine des couloirs écologiques et des habitats renouvelés en Belgique, elles pourraient revenir, mm-hmm. comme ça l'a été par exemple pour le loup qui est en train de revenir, ou le castor ou la loutre. Et donc c'est des exemples, quelques petits exemples où la biodiversité peut recoloniser si on le permet.
Vous avez une très jolie page Facebook, hein, Belbees, projet Belbees. Vous faites une petite recherche et sur la page Facebook, vous allez être régulièrement informé de ce qui se fait à travers ce projet. Mais vous y trouverez aussi des liens vers d'autres sites. Une dame, par exemple, qui demandait quel type de fleurs elle doit mettre, eh ben, sur ce site-là, notamment, ça s'appelle le Champ des Abeilles ou quelque chose comme ça, je pense, hein, le site internet lechampdesabeilles.be, je pense, qui est référencé sur votre site aussi, pour avoir de meilleures idées sur quel type de plantes planter, par exemple, ou comment faire pour respecter cette diversité chez l'abeille sauvage. Je vous propose une conclusion qui est celle du reportage d'Arte. Vous allez me dire si vous êtes d'accord.
Un essaim d'abeilles domestiques échappé d'une exploitation apicole s'est établi dans un tronc d'arbre mort. Il a facilement survécu à l'été. Mais qu'adviendra-t-il de lui avec l'arrivée de l'hiver? Le gel et la neige ont fait leur apparition. Le bourdonnement s'est tu dans la prairie. Les abeilles domestiques ont été prises par le froid. Les abeilles sauvages volaient déjà de fleur en fleur à l'époque des dinosaures. Depuis, toutes les fleurs ont été pollinisées avec soin, avant même l'apparition des abeilles domestiques. Les abeilles sauvages ont toujours survécu à l'hiver, sans nul besoin de nos services. La domestication de l'abeille se perd dans la nuit des temps. L'homme a su faire de ces petits insectes les compagnons ailés et zélés de son quotidien. Raison de plus pour ne pas oublier tout ce que nous devons à leurs cousines sauvages.
Un peu de respect que diable, ça veut ça.
C'est ça, et je voudrais en conclusion insister sur le fait que nous sommes tous face à nos actions et on est tous responsables de ça. Quand vous allez au supermarché et que vous achetez un céleri avec des pesticides qui vient du Kenya, on est responsable de ça. Donc c'est pas simplement mettre des petites fleurs dans le fond du jardin, c'est aussi au jour le jour réfléchir sur son mode de consommation, sur aussi la façon dont on éduque nos enfants à la nature et simplement respecter ce patrimoine dont on a hérité de nos ancêtres et essayer de le transmettre à nos enfants.
C'est ce qu'on va essayer de faire avec nos petits moyens en tout cas et suivre ce projet et le site dont je parlais, pardon, c'est vivelesabeilles.be en un mot, vive les abeilles, pour avoir plus d'infos également sur le projet Belbees et sur ce qu'il y a lieu de faire. Merci d'être venu dans cette émission à tous les deux.
Merci à vous.
Et bonne continuation.